Merci, Madame la Présidente. Et je souhaite la bienvenue à nouveau à la délégation de la Turquie. J'espère que vous aurez pu bien vous reposer hier soir. Première question quant à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Une question dont nous avons déjà parlé hier. Dans le rapport, l'État-parti dit que l'amendement constitutionnel de 2017 portant modification de la structure du Conseil des magistrats et du bureau de procureur respecte le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais en réalité, aucun des 13 membres de cet organe n'a été nommé par les juges ou les magistrats. Le réseau européen des conseils de la magistrature, organisation qui reprend les conseils judiciaires indépendants des pays européens, a donc suspendu la participation du conseil turc à ce réseau européen de conseils de la magistrature. Comment éviter toute ingérence du pouvoir exécutif et législatif et des partis politiques au système des juges. Et en outre, pourriez-vous nous donner quelques informations quant aux dispositions adoptées après la promulgation de l'article 26 de la loi 71-45 pour permettre la désignation des juges et des magistrats par le président? Cette loi est-elle toujours en vigueur? Quant à la question spécifique de la loi sur les avocats qui permet l'existence de différents collèges d'avocats dans les provinces, l'État-parti nous dit dans ses réponses que l'objectif était de protéger et d'améliorer la solidarité, la coopération et la discipline professionnelle afin d'avoir plus d'avocats en Turquie. Mais en réalité, la commission l'a dit, il existe un réel risque du fait que la création de plusieurs barreaux d'avocats dans la même ville, basée sur une affiliation volontaire, mène à plus de politisation de la profession de magistrat ou de juge. L'État-parti pourrait-il nous dire donc combien de barreaux il y a exactement en Turquie et combien il y en a de plus après la promulgation de cette loi et son entrée en vigueur et comment faire pour éviter la politisation de ces barreaux. D'après l'information reçue, les autorités judiciaires ne sont pas satisfaites des restrictions du droit à la défense dans les cas de terrorisme. Les avocats, particulièrement dans le cas de l'état d'urgence, ont fait l'objet d'enquêtes, ont été détenus, arrêtés ou mis en prison provisoire parce qu'ils avaient des présumés liens à une organisation terroriste en vertu de l'article 314 du Code pénal, alors qu'ils ne faisaient qu'exercer leurs fonctions. D'après nos sources, en 2023, 1600 avocats ont été mis en détention, dont 181 sont encore en prison aujourd'hui. Un grand nombre d'entre eux font l'objet d'enquêtes pour leur présumé lien à une organisation terroriste. L'État-parti pourrait-il commenter ces allégations? Ensuite, question 17 sur les licenciements massifs de juges et magistrats. Lorsque cette question est posée à l'État-parti quant à ces renvois, licenciements forcés à la suite de la tentative de coup d'État de 2016, l'État-parti nous parle du fait qu'en réalité, c'était nécessaire pour préserver et renforcer l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Néanmoins, l'État-parti pourrait-il commenter les allégations selon lesquelles ces juges et procureurs étaient chargés de procédures qui visaient à justement mener à bien des enquêtes sur des cas de corruption à grande échelle qui impliquaient des hauts fonctionnaires du gouvernement et leurs membres de la famille? D'après la décision de justice du tribunal constitutionnel, en date du 26 juillet 2017, le nombre de membres faisant l'objet d'enquête était de 4664, à savoir 30% des membres du personnel du pouvoir judiciaire. La délégation pourrait-elle nous donner des informations quant au nombre de juges et procureurs en détention, arrêtés ou libérés, et avec ou sans contrôle judiciaire? Combien de ces juges et magistrats ont-ils pu reprendre leurs fonctions respectives? Et sur cette liste de questions, nous avions demandé à l'État-parti de recevoir des informations quant à l'état de cette plainte collective présentée par des juges et magistrats devant le Conseil des juges et des procureurs en septembre 2020. Mais dans les réponses, l'État-parti ne donne pas d'informations quant à ceci. La délégation pourrait-elle donner des informations au comité quant à cette plainte et l'état de la plainte? Quant à la désignation des juges et des procureurs aux magistrats, l'État nous dit qu'après la tentative tentatives de coup d'État. 6875 juges et 4684 procureurs ont été réintégrés à la profession conformément à ce que stipule la loi, sans tenir compte de critères politiques. Néanmoins, quel est l'organe compétent en termes de désignation des juges et procureurs? Quel est le rôle dans la procédure de désignation de l'école judiciaire et du Conseil des juges et des procureurs? Quel rôle joue le ministère de la Justice dans le processus de sélection? Y a-t-il un examen public? Y a-t-il un entretien oral non enregistré dans le cadre du processus de sélection? Y a-t-il une formation initiale des juges et des procureurs? Et enfin, sur ce point, dernier élément, l'État parti pourrait-il nous donner des données ventilées sur les transferts de juges et magistrats contre leur volonté réalisés en 2023 par le Conseil des juges et procureurs? Et enfin, dernière question, le point 18, le droit à un procès équitable. Dans les réponses quant à la question sur le procès équitable, l'État parti rappelle les dispositions du Code de procédure pénale turc sur le droit des personnes qui font l'objet de procédures au pénal, nos poursuites au pénal. Mais le comité parlait en réalité spécifiquement des cas portant sur le terrorisme. L'article 153.2 du Code de procédure pénale turc restreint l'examen de l'affaire de la part de l'avocat dans des enquêtes sur le terrorisme et ceci s'applique à toutes ces enquêtes, quelles que soient les circonstances concrètes de chaque affaire. En outre, les enquêtes portant sur le terrorisme, conformément à l'article 3 du décret-loi 676 du 3 octobre 2016, inséré à l'article 154, paragraphe 2 du Code pénal turc, restreint en outre le Code de procédure pénale, restreint l'accès qu'a l'avocat aux auteurs présumés pendant au maximum 24 heures et il n'y a pas de communication possible. Ceci augmente au risque de torture, de mauvais traitement que pourraient subir les personnes accusées d'avoir des liens avec le terrorisme. L'État parti pourrait-il nous donner comment ces restrictions imposées par ces deux articles du Code de procédure pénale respectent les articles 6, 7, 9, 10 et 14 du pacte? Y a-t-il des procédures d'habeas corpus dans les cas où les affaires liées au terrorisme? D'après les informations du comité, l'État parti n'a pas respecté les décisions de justice contraignante du Conseil européen des droits de l'homme quant à Osman Kavala, Selahattin Dimitras et Figen Yüksekdag. L'État parti pourrait-il nous expliquer pourquoi ces décisions de justice n'ont pas été respectées? Merci et j'attends avec intérêt vos